France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand.
Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Vous et votre ministère avez été en première ligne depuis des mois pour porter un certain nombre de réformes substantielles comme celle du Code du Travail. Le président de la République a dit qu'il fallait attendre désormais 18 à 24 mois pour voir les effets de cette politique. C'est la bonne échelle de temps? Rendez-vous dans un an et demi?
Je crois que dans toutes les réformes structurelles, c'est-à-dire de fond, oui, on ne peut pas avoir les résultats les plus importants très vite, le lendemain matin. Il faut, pour les effets sur le chômage, oui, 18-24 mois. Et surtout, il faut en même temps, c'est ce à quoi on s'attelle, il faut aussi en même temps mener la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont améliorer leur dialogue social, vont pouvoir créer plus d'emplois, se sentent plus en capacité de prendre des initiatives. Donc ça, c'est très bon pour l'emploi. Mais il faut en même temps qu'elles puissent trouver les compétences. Et on a le paradoxe d'avoir des demandeurs d'emploi qui veulent absolument un emploi, des entreprises qui cherchent des compétences. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qu'on a du mal à pourvoir parce qu'il n'y a pas la bonne compétence en face du bon besoin. C'est ce à quoi on va s'atteler.
Et en attendant ces 18-24 mois, en attendant la réforme que vous venez de décrire, on attend?
Non, on n'attend pas. On n'attend pas. Comme vous avez vu, ce n'est pas vraiment le genre du gouvernement.
Bien sûr, mais vous dites quoi? Vous dites au MEDEF, vous dites au patron, ça y est, on vous a libéré le terrain, on a ouvert la voie, maintenant tout est là, à vous d'agir, et pour faire quoi là, maintenant, tout de suite?
Vous savez, la moitié du travail, c'est peut-être faire les lois, les réformes, la moitié, c'est ce qu'on appelle l'exécution, c'est le côté opérationnel sur le terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lance là en janvier le plan d'investissement compétences, qui est un grand plan sur 5 ans, où on prévoit de former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi, parce que, et qui vont permettre justement de saisir ces opportunités de compétences. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le taux de chômage des gens qui ont une qualification, c'est environ 5%, alors que la moyenne est à 9,4. En revanche, ceux qui n'ont pas de qualification, c'est 18%. Et en plus, quand ils trouvent un emploi, il est beaucoup plus précaire. En général, il ne dure pas, c'est des CDD, l'intérim, etc. Donc, c'est cette bataille de la compétence, c'est des réformes structurelles sur l'apprentissage, qui est une voie d'excellence pour l'avenir, sur la formation professionnelle, mais c'est tout de suite. Je pense que les jeunes, les demandeurs d'emploi, ils n'attendent pas, ils sont impatients, ils ont raison, et ils veulent le plus vite possible avoir cette opportunité d'accéder au marché du travail qui repart, la croissance repart, on crée des emplois, il faut qu'ils puissent en bénéficier.
Alors, l'une des réformes, Muriel Pénicaud, qui semble avoir le vent poupe, en tout cas du côté des patrons d'entreprise, ce sont les ruptures conventionnelles collectives. Les députés de la France Insoumise disent que vous avez ouvert là une boîte de Pandore en facilitant, au fond, le fait pour des entreprises de se délester d'une partie de leur personnel sans les garde-fous qu'il pouvait y avoir dans les précédents dispositifs.
Alors, de quoi on parle? La rupture conventionnelle collective qui existe maintenant, puisque tous les textes d'application sont sortis au 31 décembre. Donc l'intégralité des ordonnances est applicable.
Et alors, PSA, PIMKI, les Inroc, dans trois secteurs très différents, sont jetés dessus.
Pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions. Quand une entreprise est en difficulté, ou elle fait ce qu'on connaissait jusqu'ici, des plans sociaux. Le plan sociaux, ça veut dire des licenciements, ça veut dire le traumatisme du licenciement, même s'il y a une assurance dommage derrière, pour les salariés. Donc, c'est la version dure qu'on n'a pas d'autre solution. En revanche, avec la rupture conventionnelle collective,
c'est la version douce quand on a d'autres solutions.
Si l'entreprise a besoin de s'organiser, on peut le faire, mais il faut trois conditions. La première, il faut que les organisations syndicales soient d'accord. Il faut que celles qui représentent au moins la moitié des salariés, au moins un salarié sur deux, soient d'accord et signent un accord. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les salariés soient volontaires. Pas une personne peut partir si elle n'est pas volontaire. Et on voit, quand il y a des plans de départ volontaires, souvent, il y a beaucoup plus de salariés qui le demandent que ce qui est envisagé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont 10, 20 ans dans la même entreprise, qui ont aussi envie d'autres projets, qui ont envie de faire autre chose. Et surtout, troisièmement, il y a des conditions. Et il faut donc, non seulement on a le droit à l'indemnité chômage, mais il y a des conditions d'accompagnement, de reclassement, de formation, qui sont négociées par les syndicats. Donc, c'est pour ça que beaucoup de salariés y souscrivent. Donc,
Une journée de négociation à PSA, une journée...
Les syndicats disent non, que les salariés disent non, ça n'existe pas. Donc c'est un atout de plus. Et je pense que pour les salariés et pour les syndicats, justement, pouvoir se dire, on a non seulement notre mot à dire, mais si on dit non, ça ne se fait pas, et bien c'est une autre manière d'envisager les réorganisations que d'être juste dans le plan de licenciement, qui est quand même une décision...
Et vous confirmez que ces ruptures conventionnelles collectives ne pourront pas toucher des classes d'âge au sein des entreprises. Alors, sortir les seniors, pour le dire poliment.
On ne peut pas décider qui on sort, parce que les salariés doivent être volontaires. Donc on va quand même veiller à une chose, parce qu'on a un petit peu d'expérience. Les salariés et les entreprises pourraient être d'accord ensemble pour faire la retraite un peu massive, payée par l'assurance chômage. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faudra aussi une homologation de la directe. La directe, c'est l'administration, c'est mon administration en région, pour vérifier juste qu'on n'est pas en train de, voilà, d'augmenter
Le chômage des plus seniors, anciens, voilà. Aux frais de la collectivité. Est-ce que des ruptures donc seront retoquées, car infondées, retoquées par vos services ?
Ils auront des instructions, ils pourront les retoquer, mais avant, je rappelle, il faut que les syndicats soient d'accord, que les salariés concernés soient d'accord, soient volontaires. Donc, on en retoquera aussi, mais je pense que l'essentiel se joue dans la négociation dans l'entreprise.
Est-ce que vous allez aller vers un durcissement du contrôle des chômeurs ?
De quoi on parle ? La très grande majorité des demandeurs d'emploi, ils n'ont qu'un but.
C'est d'en retrouver un.
Retrouver un emploi. Et j'allais dire avoir la dignité d'être la fierté de vivre de son travail. Parce qu'un emploi, c'est pas simplement une rémunération, c'est aussi une fierté, c'est un lien social, c'est se sentir utile, enfin bref.
C'est 99% des gens, ça ?
À peu près les 250 000 contrôles qu'a fait Pôle emploi, c'était 86% des gens qui cherchaient très activement un emploi. Parmi eux, il y en a qui ne cherchaient plus, mais parce qu'ils étaient qu'ils étaient découragés. Donc ça, on le prend en compte. On peut aussi avoir des pépins de la vie, avoir un moment donné où on cherche plus bien. Mais bon, ça, il faut pas que le contrôle soit bureaucratique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça soit humain et que ça prenne en compte la situation réelle des gens. Mais on a quand même trouvé 14% des gens, ce qui n'est pas très étonnant, qui, eux, n'avaient aucun problème de découragement, avaient des compétences qui étaient tout à fait accessibles sur le marché du travail, qui ne cherchaient pas à bénéficier de l'assurance chômage. Ben, l'assurance chômage, c'est l'argent qui vient des cotisations des salariés, des employeurs, et ça vient aussi de l'État. C'est comme l'URSSAF. C'est normal qu'il y ait du contrôle. Simplement, comme je le disais, le contrôle doit être bien fait. Alors, simplement, quand
on
fait un
contrôle... Il va être durci ou pas, alors les barèmes, ensuite, sont très importants.
Quand on fait un contrôle,
les 14% qui
qu'est-ce qui se passe quand on fait le contrôle? D'abord, on découvre au passage ce qui s'est passé, qu'il y avait des gens qui étaient découragés. Donc, du coup, ça permet de refaire des programmes pour les aider à, rechercher activement de l'emploi. Donc, le contrôle, parfois, amène à plus d'accompagnement, pas forcément une sanction.
Et pour la sanction?
Pour ceux qui sont les fraudeurs, mais je parle de fraudeurs, là, pour les fraudeurs, aujourd'hui, il y a plusieurs types de sanctions et c'est un peu étrange. C'est-à-dire, si vous ne rendez pas une convocation, un rendez-vous, vous pouvez être suspendu pendant 2 mois. Et par contre, si vous ne cherchez pas de travail, vous pouvez être suspendu pendant 15 jours. Donc, on va remettre de l'ordre de tout ça pour que ça soit plus logique, plus cohérent. Et encore une fois,
plus
d'accompagnement pour
ça
ceux qui cherchent l'emploi.
Décrivez-nous ce que ça donnera.
J'ai demandé aux partenaires sociaux
vous avez bien une idée, Madame la Ministre.
J'ai demandé aux partenaires sociaux et voilà. J'attends leurs propositions.
Alors, vous leur soumettez
pour
quoi
début février.
Vous leur soumettez quoi comme sujet de dissertation?
Je leur soumets que nous devons à la fois mieux accompagner plus vite, parce que quand un demandeur d'emploi, c'est pas au bout de 6 mois.
La punition, ce sera quoi
et
la nouvelle échelle de peine ?
Et pour
peine.
Les fraudeurs, il faudra renforcer les sections et puis pas que la main tremble pas pour les fraudeurs. Mais c'est très intéressant, vous savez, les 14% là. Il y a très très peu qui se sont réinscrits, donc ils savaient qu'ils fraudaient.
Quand de gigantesques groupes de l'économie numérique ne payent pas ou quasiment pas d'impôts en France, est-ce que ce ne serait pas ça, dans un monde même pas idéal, mais est-ce que ce ne serait pas ça la première loi, la première mesure à prendre, plutôt que d'aller chercher des poux dans la tête à quelques-uns des 14% que vous venez de décrire, en termes de masse économique et financière ?
Alors d'abord... lutter contre les fraudeurs, c'est pas l'aspect économique, c'est l'aspect de justice. Moi, je vois des salariés, des artisans qui disent « moi, je cherche du travail, etc. » Et il y en a une toute petite minorité qui, elle, ne cherche pas et bénéficie des cotisations.
Une toute petite minorité.
Donc,
quand
c'est
on
pas
regarde
un sujet
les masses, maintenant.
Alors, sur les masses...
Est-ce que
c'est
pas
que
scandaleusement immoral, là aussi, de gagner de l'argent et de ne pas payer d'impôts en France quand les entreprises classiques, qui ne sont pas 2.0, quand les gens payent leurs impôts, ben non, il y a des grands groupes de multinationales qui échappent par miracle.
Les fameuses GAFA, dont on parle beaucoup... vous avez vu que Bruno Le Maire est très actif là-dessus et que sur le plan européen, il y a une action en cours parce qu'il faut qu'on le fasse à l'échelle européenne pour que c'est vraiment plus de poids. Si c'est juste un pays, ils vont aller dans le pays d'à côté. L'Europe, c'est 1,5 million de, c'est pardon, 500 millions de, d'habitants, de consommateurs. Ils peuvent, ces entreprises ne peuvent pas éviter l'Europe. Donc, je pense que si on arrive à avoir une position européenne, ce qui est le but,
ça c'est dans les tuyaux.
Mais il y a un travail, il y a des discussions en cours au niveau européen et Bruno Le Maire mène ce sujet.
Alors parlez-nous du chantier qui est passionnant intellectuellement, de la réforme de l'objet social des entreprises, parce qu'on pourrait imaginer justement que contribuer au bien commun soit inscrit dans l'objet social. Est-ce qu'on ça y est, on y va, on va réécrire la vieille définition datant de 1833 et avoir une définition plus moderne de ce qu'est doit être une entreprise?
Alors, on lance demain. Ça se passera à Grenelle, au ministère du Travail, avec Bruno Le Maire, Nicolas Hulot, Nicole Belloubet et moi. On lance tout un travail de concertation avec les partenaires sociaux et on va confier cette mission à deux personnalités très reconnues sur tous ces sujets, qui sont Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, et Nicole Lotta, qui est patronne de Vigeo, qui fait de la notation et du conseil justement sur la vision de l'entreprise globale. L'idée, c'est quoi? C'est que l'entreprise, évidemment, elle doit donner un retour d'investissement à ses actionnaires, c'est parce que c'est eux qui mettent de l'argent. S'ils n'ont pas de retour, il n'y a pas d'entreprise, donc il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien.
Mais voilà, condition nécessaire, mais pas suffisante.
Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, on n'a pas dit le tout, parce qu'une entreprise, elle a des impacts sociaux, elle a dans la création d'emplois, mais même dans son environnement, elle a des impacts environnementaux. Donc, elle fait partie, finalement, du paysage commun. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur l'articulation entre l'entreprise et l'intérêt général, ou le bien commun, ou l'utilité sociale, on pourra discuter de
certains grands patrons ont dit au secours, ça y est, c'est le triomphe de la bureaucratie, on va bientôt nous opposer à un certain nombre de choses. Surtout ne faisons pas ça, on en a entendu certains au micro.
Oui, alors comme on n'a pas encore dit du tout ce qu'on allait faire, on n'a pas commencé à discuter.
Ils sont pas non plus totalement naïfs, ils voient de quoi il s'agit.
Demain, il y aura donc tous les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux, les numéro 1 viennent quasiment tous. Et je pense que ce qu'il faut qu'on discute, c'est plusieurs choses. Il y a un sujet qui est l'aspect général. Mais il y a aussi des aspects, il y a des entreprises qui ne voudraient mettre dans leur raison sociale, c'est-à-dire dans leur finalité officielle juridique, plus d'environnement, plus de salle. Aujourd'hui, ça n'est pas possible dans le droit. Par exemple, en Allemagne ou aux Pays-Bas ou aux États-Unis, vous pouvez avoir une fondation qui possède une entreprise. En France, c'est très compliqué. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des entreprises à mission. Entreprise à mission, c'est une entreprise qui dit « Mon but, c'est à la fois un retour économique et financier, mais un retour social et un retour environnemental. » Ça, aujourd'hui, c'est pas possible dans le droit français. Donc, il y a toute une série de choses.
Donc, on pourrait aller vers ces formes-là.
Il y a la question de gouvernance. Qui doit participer au conseil d'administration? Est-ce qu'il faut plus de représentants des salariés? Ce genre de questions. Comment on partage la valeur? Ouais, ces questions-là seront abordées. Donc, Nicole Lotta et Jean-Dominique Sénard ont 2 mois pour cette mission très importante. Et le résultat de leur réflexion sera évidemment passé au tamis de la décision gouvernementale et pourra s'intégrer dans le projet de loi PACTE que Bruno Le Maire présentera cette année.
1000 autres questions encore à vous poser, Muriel Pénicaud, en plus de celles des auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000. On vous retrouve avec Léa Salamé après la revue de presse de Claude Ascolovitch.